Ce n'est peut-être pas utile que je représente le Café Citoyen Chaplin. Un petit mot quand même, hein, pour rappeler que bon, le Café Citoyen Chaplin, association noix de 1901, affiliée à la Ligue de l'Enseignement, Fédération des Amicales Laïques de Loire-Atlantique, propose depuis une dizaine d'années ce type de conférences-débats autour de thématiques qui nous paraissent d'actualité ou importantes. Intéressante en tout cas à traiter. Cette année, au cours de l'Assemblée Générale, nous avons demandé au présent, de et au présent, de nous faire des propositions de sujets à traiter. Et dans le programme que l'on commence à travailler, qu'on a commencé à travailler et qui sera prêt pour le milieu de l'année à peu près, on l'espère, vous constaterez donc qu'il y a des sujets qui sont issus de ces propositions de l'Assemblée Générale. Donc on reprendra cette façon de procéder, cette façon de travailler l'année prochaine. Et c'est pour ça que je vous invite, si vous ne l'avez déjà fait, et si vous êtes des fidèles de nos soirées, à adhérer au Café Citoyen Chaplin, ce qui vous permet d'assister à l'Assemblée Générale et d'être vous aussi force de proposition. Donc il est possible d'adhérer, vous trouverez les conditions d'adhésion sur les petits flyers qui présentent le programme de l'année que certains d'entre vous, la plupart d'entre vous ont sûrement, ou sur le site web de l'association, puisque c'est également un moyen d'être au courant de nos actualités, de pouvoir revoir les archives, c'est-à-dire des séances qui se sont déroulées dans le passé sur des sujets qui vous intéressent. Et puis, d'avoir tous nos contacts et de pouvoir faire œuvre d'adhésion. Voilà. Donc, je vous invite à aller sur le site web du Café, vous tapez Café Citoyen Chaplin et vous y accéderez sans difficulté. La séance de ce soir, alors vous savez que c'est la dernière de la saison. Vous savez que, compte tenu des conditions sanitaires qu'on a connues depuis 2 ans, ça n'a pas été évident de reprendre les activités comme beaucoup d'autres, sinon quasiment toutes les autres associations, de reprendre les activités du Café Citoyen Chaplin dans des conditions satisfaisantes. Néanmoins, on a réussi quand même cette année à reprendre les séances en 2022 et à reprendre des sujets qu'on avait retenu et qu'on n'avait pas pu traiter au cours des 2 années précédentes à cause de ces conditions sanitaires. Le sujet de ce soir en fait partie. On avait considéré que tout ce qui tournait autour de la question des relations entre l'homme et l'animal recouvrait des sujets d'actualité brûlante, même quelquefois, passionnelle quelquefois, il fallait qu'on aborde les questions qui étaient derrière cet aspect des relations entre l'homme et l'animal. Nous avons donc décidé de continuer à travailler sur ce sujet, et grâce à la collaboration de Martine Caméraire, qui est ici ce soir, on vous propose donc ce soir d'aborder la question de la souffrance animale. On vous propose donc d'organiser la soirée sur 3 séquences. La première séquence aura trait à l'aspect, utilisation des animaux pour des essais cliniques, des essais de laboratoire, etc., qui sont préparatoires à des travaux qui seront menés pour en relation avec la santé humaine. Le deuxième aspect sera plus sur les questions alimentation-élevage, donc sur les questions d'élevage à proprement parler et d'abattage. Et puis la troisième séquence, ce sera sur les questions de l'utilisation des animaux dans les activités de loisirs. Donc je vous propose donc d'aborder ces sujets successivement. Madame Caméraire, j'ai oublié de présenter, mais normalement vous aviez votre fiche de présentation.
Oui, ben, je vais vous le dire.
Vous allez le dire, d'accord. va donc sur une dizaine de minutes, un quart d'heure à chaque fois, nous, nous présenter donc la thématique, et puis ensuite, vous aurez la parole. C'est-à-dire qu'on fera trois séquences, trois débats. Hein, voilà. Et puis à la fin, pour garder la tradition du café citoyen Chaplin, mais à la fin seulement, puisque l'organisation en trois séquences n'est pas facile autrement, pour permettre aux gens de se désaltérer, mais à la fin, on consacrera un petit moment de prolongation pour boire un pot ensemble. Encore une fois, merci d'être là. On aurait bien sûr voulu qu'on soit un petit peu plus nombreux ce soir ensemble. La période n'est pas très évidente. Hein. Et puis, il y a eu des petits cafouillages sur les délais d'invitation, la publication dans la presse, quoique, bon, c'était au début de la semaine. Bon. Voilà. Donc, merci et je passe la parole à Mme Caméraire.
Voilà. Moi, je vais être là.
Oui, merci. Donc, comme vient de le dire Hervé, effectivement, je suis vétérinaire. Moi, et c'est en tant que vétérinaire, effectivement, que j'ai eu à, bien sûr, m'intéresser, enfin, que je me sens très concernée par la souffrance animale. Mais je ne suis pas une spécialiste du point de vue de mon secteur d'activité. Je suis professeure émérite à l'école vétérinaire de Nantes, donc pas loin de la chapelle. Et j'étais professeure en pharmacie et toxicologie, et c'est en tant que toxicologue surtout que j'ai eu à faire des expérimentations, à m'intéresser de près à la souffrance animale. Et puis, donc, comme Hervé vous l'a dit, on vous propose donc de réfléchir à plusieurs aspects. Alors, on a beaucoup réfléchi, tourné un petit peu la phrase, comment trouver le bon titre ? Finalement, je vous propose celui-là. Jusqu'où peut-on aller dans la souffrance animale, la souffrance, la douleur que nous imposons aux animaux pour notre bien-être en général ? Alors, la domestication de l'animal, bon, ça remonte à des siècles et des siècles. Et jusqu'alors, l'animal était vraiment considéré comme un outil, comme une façon, enfin, un produit alimentaire, un outil pour travailler. Et ce n'est que depuis quelque temps hein, qu'on s'intéresse vraiment à sa souffrance, sa douleur, et qu'on se pose des questions sur est-ce qu'on a le droit de faire tout ça ? Alors, ça a commencé au 19e, ça s'est accentué au 20e, et puis c'est surtout, je pense que vous en avez tous conscience actuellement, hein, depuis le début du 21e siècle, surtout que le débat est encore plus présent dans la société. Alors, en fait, si on remonte vraiment au début du souci de la douleur, de la souffrance animale, on peut peut-être la chiffrer à la fameuse loi Gramont, hein, dont vous avez sans doute tous entendu parler. C'était donc en 1850. Hein. Gramont, c'était un député, enfin un général d'une part, et un député aussi. C'est pour ça qu'il a pu plus facilement donc proposer cette loi. Ce qui l'a motivé au départ, c'était surtout la souffrance des chevaux pendant les guerres, hein, qui se succédaient sans presque s'arrêter depuis des siècles. Et là, il a vraiment été ému par ces chevaux éventrés, maltraités durant la guerre. Et c'est cela qui l'a poussé à proposer une loi à l'Assemblée. Une loi qui a en fait été bien édulcorée. Hein. Le texte qu'il avait prévu au départ était bien plus percutant que ça. Et voilà comment a commencé la fameuse loi Gramont. Une amende, effectivement, pour punir les mauvais traitements envers les animaux domestiques. Mais c'était seulement publiquement. Hein. La loi a été restreinte à ce sujet, c'était seulement les maltraitances publiques. Par contre, chez soi, on avait le droit éventuellement de maltraiter ces animaux sans qu'on aille vraiment voir ce qui se passe. Alors ça, la loi Gramont, c'est vraiment loin. On a fait de gros progrès quand même depuis. Et comme vous le dit Hervé, je vous propose d'aborder trois domaines. Il y en a d'autres plus pointus sans doute, mais trois domaines pour lesquels on utilise, on a besoin des animaux et on va jusqu'à les souffrances qui peuvent être importantes. Alors, la réflexion, effectivement, le débat qu'on peut faire après chacun de ces trois chapitres, puisque c'est quand même des chapitres très différents, nous permettra de voir jusqu'où on peut aller aujourd'hui, quelles sont les questions qu'on doit se poser. Personnellement, bien sûr, je n'ai aucune réponse, je n'ai que des opinions personnelles, mais je vais essayer, avec quelques éléments scientifiques, de vous apporter aussi des éléments de réflexion. Alors, souffrance, douleur, quelle différence ? Il y a des définitions un peu précises. Bon, je ne vous les ai pas présentées. Je pense qu'on va comprendre. L'un et l'autre peuvent se dire, finalement, hein, on utilise nous-mêmes ces deux termes pour nos propres sentiments. On va considérer que la douleur, c'est quand même plus une approche médicale et physiologique, et que la souffrance intègre davantage la composante psychique du mal-être. Mais finalement, on ne va pas distinguer l'un et l'autre pour ce qui suit. Je voulais vous dire quelque chose. Non, mais je vais m'arrêter là et puis y revenir peut-être un peu plus tard. Pour commencer justement avec le premier sujet, celui que je connais sans doute le mieux, puisque j'ai eu moi-même à faire des études expérimentales sur les animaux. Alors, on a besoin effectivement des animaux, on se repose sur les animaux pour nous protéger d'un certain nombre de risques. On va tester chez les animaux avant d'utiliser nous-mêmes les produits. Alors, il y a une série de produits réglementés par les textes européens et français, à commencer bien sûr par les médicaments. Aucun d'entre nous, je pense, n'imagine être prêt à recevoir un nouveau médicament préparé dans un laboratoire sans quelques précautions. Et ces précautions, malheureusement, effectivement, ça reste encore passé par des tests sur les animaux. Dans le même ordre d'idée, on a tous les produits phytosanitaires, les pesticides, n'est-ce pas, au sens d'abord de produits destinés à protéger les plantes. On va laisser le mot produit phytosanitaire, ça protège les plantes, alors les cultures et puis les plantes dans le jardin. Alors que les biocides, ça comprend tous les produits qui sont destinés à tuer, hein, comme le suffixe « cide » l'indique, qui sont destinés à tuer autour de nous, mais dans un domaine domestique. Donc par exemple, ce sont les antifourmis, les produits contre les moustiques, les antimites dans nos placards, mais également les désinfectants pour les mains, les produits pour traiter les toitures. Enfin, il y a une liste très longue, 14 catégories, si je ne me trompe pas, 14 catégories de produits biocides. Et tous ces produits biocides sont réglementés avec un dossier toxicologique important, hein, puisque ce sont des produits destinés à tuer des organismes que nous considérons comme nuisibles. Ils peuvent éventuellement, bien sûr, être dangereux pour nous-mêmes. Les additifs alimentaires également, hein, sachez, les E302, etc., font l'objet de tests. J'oublie peut-être des catégories, mais de toute façon, il faut rajouter également toutes les substances qui sont visées par le règlement REACH. Je ne sais pas si vous avez noté ce qu'est ce règlement récent. Hein, le règlement REACH signifie le sigle, l'acronyme REACH, Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals. C'est-à-dire, il s'agit d'enregistrer, d'évaluer, d'autoriser toutes les substances chimiques avec lesquels nous sommes en contact, que nous pouvons manger éventuellement ou autre. Et ça, c'est un règlement récent, hein, 2007 seulement, c'est un règlement européen qui consiste à dire que tous les produits chimiques fabriqués par l'homme sont potentiellement dangereux pour l'homme et pour l'environnement et qu'ils doivent donc tous maintenant faire l'objet d'une évaluation toxicologique. Alors, outre les substances réglementées, ça signifie que n'importe quel produit que vous allez utiliser, qui sera fabriqué, et donc qui sera à base de produits chimiques, devra être passé sous les fourches donc, du règlement REACH, avec des niveaux d'exigence plus ou moins importants selon le tonnage et sa nature. Par exemple, je prends une bombe de lac, par exemple. Une bombe de lac, si vous lisez la bombe de lac, elle aura fait l'objet de quelques tests cutanés et autres pour être sûr que ça ne va pas irriter la personne qui s'en met sur les cheveux. Mais le règlement REACH demande d'aller plus loin. Hein. Si on reprend l'étiquette de cette bombe iroise, il y a de l'alcool dénaturé, du diméthyléther, du propane, de l'aminométhylpropanol, du citronellol, etc., etc. Il y a une dizaine de substances. Chacune de ces substances va devoir passer dans le règlement REACH. Alors ça va prendre du temps, bien sûr. Je ne sais plus à combien de milliers, de dizaines de milliers de substances on en est actuellement. Ça va prendre plusieurs années, mais sachez que donc tous les produits chimiques auxquels vous pourrez avoir accès, volontairement ou non, auront fait l'objet de tests toxicologiques à la fois pour l'homme et pour l'environnement aussi, parce que la préoccupation aujourd'hui, c'est également toute la contamination de notre environnement. Alors malheureusement, il faut faire appel à l'animal. Comment est-ce qu'on s'y prend? Et est-ce qu'on a le droit de le faire n'importe comment? Je vous rassure, non, sûrement pas. Mais la réglementation sur l'expérimentation animale, elle est relativement récente. Les premiers textes datent de 1984, si je me souviens bien, il y a environ 30-50 ans. N'importe qui, en quelque sorte, pouvait tester l'administration de Coca-Cola dans son garage sur des animaux de laboratoire, s'il trouvait ça en administration intraveineuse, par exemple, ou autre, s'il pensait que ça avait un intérêt. Et le premier texte avait un double objectif, on a mis de l'ordre, heureusement, là-dedans, avait un double objectif. D'une part, il faut réglementer l'expérimentation animale, n'importe quel labo ne pouvait pas se targuer de faire des expérimentations sur les animaux. Il fallait qu'ils montrent qu'ils soient fiables. Mais le deuxième objectif, c'était vraiment la protection des animaux. Et ça donc de, non, pas 84, mais 87. Le premier texte, c'est un décret de 1987 qui instaurait plusieurs choses. D'une part, il demandait aux laboratoires, aux chercheurs, aux personnes qui allaient se lancer dans cette expérimentation, d'avoir une autorisation. Comme je vous dis, n'importe qui ne pouvait pas se lancer là-dedans. Il fallait demander l'autorisation au ministère de l'Agriculture qui la délivrait. Deuxième chose, on s'est intéressé à l'entretien des animaux. Il fallait avoir des locaux agréés, donc des locaux qui montraient qu'ils étaient dans bonne qualité pour l'entretien des animaux en question. Et le troisième point qui est très important aussi, mis à part donc ces deux textes qui avaient pour objet la fiabilité et la protection des animaux, en même temps, il y avait la création d'une commission nationale consultative de l'expérimentation animale dont le rôle était de trouver d'autres méthodes, de chercher des méthodes dites alternatives, mais qui malheureusement ne représentent pas une alternative pour toutes les situations. Et le texte a été renforcé encore récemment, en 2013. Et là, l'autorisation n'est pas accordée à un chercheur. On avait une autorisation, donc moi-même, j'ai demandé une autorisation pour faire quelques essais, enfin, les essais auxquels je devais me plier. Et je l'avais pour 10 ans, je crois. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Chaque fois qu'on doit lancer une nouvelle étude, une nouvelle expérimentation, il faut redemander une autorisation qui est accordée sur avis d'un comité d'éthique. Donc, vous voyez, on a introduit un comité d'éthique dans cette réglementation, et la notion d'éthique, de bien-être animal, devient de plus en plus prépondérante pour les chercheurs. Moi-même, les tests que j'avais eu à faire, outre des tests sur des toxiques chez les animaux, je me souviens avoir participé à des tests sur l'encre Waterman, tout simplement pour vous montrer un petit peu l'intérêt, parce que c'est vrai que quand vous mordillez votre stylo pour chercher l'inspiration, il faut qu'on soit sûr que cette encre ne va pas porter atteinte à votre santé. Et malheureusement, il faut passer sur des animaux pour faire ça. Alors, un point essentiel, c'est qu'il n'y a aucune espèce animale que l'on peut considérer comme le bon reflet de ce qui va se passer chez l'homme. Les primates, pas plus, même souvent moins que d'autres. Aucune espèce ne réagit toujours comme l'homme, ou inversement. Et ça dépend vraiment, avec le recul, on se rend compte que parfois c'est le singe, effectivement. Alors, les primates sont encore nécessaires, ils sont très peu utilisés. J'avoue que je ne sais pas pour quelles raisons on a fait des tests cutanés, il semble, sur ce petit singe. Aujourd'hui, ils restent encore utilisés pour tout ce qui concerne le système nerveux. Les médicaments, en particulier, pas systématiquement, je vous rassure, mais pour certains tests, c'est vraiment, ce sont les primates qui restent les meilleurs reflets du système nerveux chez l'homme. Mais sinon, c'est vraiment exceptionnel qu'on s'intéresse qu'on s'appuie sur ces espèces aujourd'hui. Le chien reste encore, bien que ce soit vraiment un animal très proche de nous, hein. Ici, bon, il est simplement l'objet d'un électrocardiogramme. Le chien est, parmi les races de chiens, le beagle est particulièrement utilisé parce que c'est une race dans laquelle on peut avoir des lignées très homogènes. On peut utiliser également le lapin qui a une peau extrêmement fine et le lapin sera préféré entre autres pour les tests cutanés quand il est nécessaire de passer sur le vivant. Mais au final, il y a une espèce qui paye effectivement un lourd tribut à toute l'expérimentation animale, ce sont les rats. Les rats sont effectivement des animaux qui vont se multiplier rapidement. On a besoin d'une espèce qui se multiplie vite parce qu'il faut un certain nombre d'animaux et puis également qui propose des lignées très homogènes pour qu'il y ait le moins de variations possible entre les individus. Alors comme je vous le disais, maintenant il y a quand même une réglementation très importante sur les locaux. Les animaux doivent être élevés dans les meilleures conditions possibles. Alors bien sûr là c'est une petite cage, hein. Une petite boîte. Des boîtes, là vous avez ici une animalerie rongeur, avec une série de boîtes sur les étagères. Ce que je veux vous montrer également dans ces photos, c'est à quel point maintenant c'est d'une haute technicité. Hein. Ici, ce sont par exemple une atmosphère contrôlée, une fenêtre qui ne s'ouvre pas, mais vous avez sur la table là un hygromètre, un thermomètre. Enfin, toutes les conditions sont extrêmement contrôler, bien sûr, pour limiter au maximum les facteurs de variation. Et puis surtout aussi, le personnel, maintenant, est formé, hein, doit passer différents niveaux de compétences. Et vous voyez, ici, on a presque l'impression, enfin, il est équipé presque comme dans une salle de chirurgie, hein, il a un masque, il a des gants. Là, c'est une simple manipulation pour vérifier l'état général, la douleur éventuellement lors de la manipulation des membres, mais faite par une personne qui est habillée presque comme un chirurgien. Alors vraiment, cette notion d'éthique, de souffrance animale, elle progresse de plus en plus et sous l'influence donc, de ce comité d'éthique. Et on vient maintenant également à la notion de point limite, qui est vraiment un petit peu la réponse à la question que je posais en introduction, jusqu'où peut-on aller ? Mais aujourd'hui, on considère en expérimentation animale qu'il y a des limites. Effectivement, qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout de la souffrance et autres. On a introduit la notion de point limite. Le point limite dans une expérimentation, ce sont trois définitions, mais qui se rejoignent toutes les trois. La première, l'indicateur précoce sur lequel on se base pour décider de l'euthanasie, parce que c'est bien ça la question. En expérimentation animale, si l'animal souffre trop, eh bien, l'idée, c'est de ne pas le laisser mourir dans la souffrance, mais de les abréger par l'euthanasie. C'est la définition de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. La deuxième définition, qui est très voisine, ça vient de l'Organisation de protection animale canadienne, mais là, qui va effectivement mettre en œuvre non seulement l'euthanasie, comme le propose l'OCDE, mais également l'arrêt de l'expérimentation si on voit que l'animal souffre trop. Et pour terminer, un chercheur qui propose un peu la même chose. Alors comment déterminer ce point limite ? Où va-t-on s'arrêter ? Alors on peut mettre en avant, parallèlement à la définition de ces points limites, la règle des 3 R qui est maintenant imposée dans toute l'expérimentation animale, c'est le fondement de la démarche éthique en Europe et en Amérique du Nord. Les 3 R, il s'agit de réduire le plus possible le nombre d'animaux utilisés, si possible de remplacer, chaque fois que ce sera faisable, de le remplacer par des méthodes alternatives. Et puis le dernier R, raffiné, bon, c'est un terme qu'on peut prendre de différentes façons, mais là, il faut le prendre dans le sens où il s'agit de faire un protocole le plus élaboré possible pour diminuer les souffrances potentielles. Avoir un protocole, non pas grossier en quelque sorte, mais qui prenne réellement en compte le plus possible la souffrance qui pourra survenir. Et si je reviens là maintenant sur le point limite, comment va-t-on apprécier la douleur sur les animaux d'expérience, sur des rats en particulier? On utilise beaucoup plus le rat que la souris, parce que la souris c'est trop petit. Un rat ça pèse 100 à 500 grammes, enfin en moyenne 200 grammes. Ça permet une observation un peu fine, alors que la souris c'est 20 grammes, c'est minuscule et ça, c'est beaucoup plus difficile de l'approcher, enfin de faire une observation très fine. Mais l'un et l'autre sont ceux sur lesquels, bien sûr, on va tester les produits en question en première intention. Alors, on peut apprécier la douleur déjà par des signes physiologiques, parce que la douleur, c'est effectivement une réaction physiologique. C'est ça que je voulais vous dire en entrée, effectivement. La douleur, c'est une défense de l'organisme, n'est-ce pas? Si ça n'existait pas, si on n'avait pas la douleur, on laisserait notre main sur la plaque de cuisson et elle serait brûlée. Donc c'est une façon de se défendre. Et donc l'organisme réagit à une stimulation douloureuse par différentes fonctions physiologiques. Donc la tachycardie, c'est-à-dire l'accélération cardiaque, l'accélération de la respiration, la sécrétion d'un certain nombre d'hormones. Donc on va pouvoir suivre la douleur chez les animaux d'expérience par ça. On va le suivre également par une appréciation fine de son comportement. Voilà, des modifications comportementales qui peuvent refléter effectivement une douleur de la part des animaux en question. Une baisse d'appétit, bien sûr, un animal plus calme qui ne bouge pas normalement, des plaintes, les vocalises, c'est un terme qui signifie donc les plaintes, les gémissements. Et puis, il y a également l'observation, encore une fois, l'observation fine de l'animal et l'expression faciale, même sur ces animaux, peut refléter la douleur. On peut ainsi la chiffrer. Voici quelques exemples. Alors, c'est très difficile sur les photos de le voir, mais le personnel bien formé à cela peut chiffrer la douleur sur une souris, vous voyez, minuscule, en observant ses yeux. Bon, là, vous avez la note zéro, hein, la souris est en forme, elle ne ressent aucune douleur, et on va pouvoir la chiffrer, hein, à la façon dont elle ferme un petit peu ses yeux, ou dont elle présente son nez, bulge, excusez-moi, j'ai un doute sur pas ce que ça signifie, hein, son gonflement, hein, voilà. Plus le gonflement des joues également, la position des oreilles, ou des vibrisses, vous voyez, on cherche maintenant à déceler les premiers signes de douleur chez les animaux. Et à ce moment-là, de voir si on a atteint le poids limite, ou s'il faut, ou si on peut aller plus loin. Alors tout ça est effectivement très choquant, hein, bien sûr, pour le public. Mais malheureusement, je crois que... on va donc en discuter dans votre débat. Il semble très difficile de se passer des essais in vivo, hein, sur les animaux vivants. Alors bien sûr, les méthodes alternatives, ça existe. Et il y a vraiment, comme je vous dis, c'est réglementaire, c'est constitutif à la création de tous les organismes qui contrôlent l'expérimentation animale. Il y a actuellement de gros efforts de recherche en la matière. On peut imaginer plusieurs niveaux. Alors déjà... quitter l'animal, le vertébré, et s'intéresser, ou même l'animal pluricellulaire, aux micro-organismes. C'est vrai que, du coup, les études de génotoxicité, c'est-à-dire la mutagenèse, les mutations qui peuvent survenir, et qui sont un premier signe, le premier départ souvent d'un cancer, ça se fait aujourd'hui sur des bactéries, on ne fait pas ça sur des animaux vivants, bien sûr. Certains tests sont proposés sur des invertébrés, pour lesquels, effectivement, on a quand même assez peu de pitié, mais vous reconnaîtrez qu'entre l'hydre d'eau douce et nous-mêmes, il y a un grand fossé à franchir. Alors, bien sûr, tout le monde nous parle de culture cellulaire. Pourquoi prendre des animaux et pas simplement des cultures? La culture cellulaire, alors déjà, la culture cellulaire, il faut au départ des animaux quand même pour produire ces cellules. Mais c'est vrai qu'après, on peut travailler sur les cultures. Le problème, c'est que ces cultures vont assez vite, elles vont rester vivantes longtemps, hein, dans des boîtes de pétri et autres, elles peuvent rester vivantes longtemps, mais elles vont perdre leur différenciation. C'est-à-dire que ça va devenir des cellules banales, les cellules de foie vont perdre des caractéristiques de ce qui se passe dans le foie, et les cellules intestinales pareil, Et au final, donc, on aura des cellules peu représentatives de ce qui va vraiment se faire. On peut utiliser des cultures d'organes, effectivement. Donc là encore, un organe, un estomac, un cœur peut vivre, entre guillemets, enfin un cœur peut battre dans un bocal, c'est pour simplifier, pendant quelques temps. Mais ça reste une simplification réductrice, il faut un animal au départ. Alors c'est vrai que les cultures d'organes, c'est particulièrement... Enfin, il y a quand même des domaines où c'est, très, où c'est satisfaisant. On pense en particulier à tous les tests cutanés. Les cultures de peau, là, ça permet vraiment de refléter ce qui va se passer sur la peau. Et il est très rare maintenant qu'on ait besoin de faire appel aux animaux pour tester des produits dont on redoute les effets dermatologiques. Pour les yeux également, alors bien sûr, il fut un temps où on mettait les produits dans les yeux des lapins, et on comparait, on mettait dans l'œil gauche, et puis on comparait avec l'œil droit dans lequel on mettait rien. Bon, ça, c'était source de souffrance sûrement terrible. Aujourd'hui, c'est terminé, ça, et en récupérant des yeux à l'abattoir, on peut refléter effectivement la bonne tolérance des yeux de la plupart des produits chimiques. Alors l'œuf embryonné, ça aussi c'est un organisme vivant, hein, c'est-à-dire l'œuf vivant, l'œuf fécondé, l'œuf de poule, hein, dans lequel on laisse se développer un peu l'embryon. On pourra pouvoir faire des tests dessus. Mais malgré tout, bien sûr, tout ça est quand même très loin de ce qui se passe chez nous. Et en particulier, ça chante, si je peux dire, hein, toute la partie trajet. Si au final, on peut se dire effectivement... Le cœur, à son début, c'est vraiment le cœur tel qu'il est chez nous. Enfin, c'est vraiment notre cœur, ou un cœur voisin, pardon. Par contre, tout le cheminement qu'il a suivi, hein, là, on fait l'impasse dessus. Or, il se passe plein de choses durant ce cheminement, entre l'exposition orale, cutanée, ou par une autre voie, et l'atteinte de l'organe en question. C'est cela sur lequel on est obligé de faire l'impasse en se penchant sur ces méthodes. Alors il y a des méthodes encore plus loin de l'animal et du vivant, parce qu'après tout, a-t-on le droit aussi de faire mal à une hydre d'eau douce. C'est là ce qu'on appelle la toxicité in silico, c'est-à-dire en fait l'utilisation de l'outil informatique. Alors ça, c'est très intéressant effectivement du point de vue théorique. Ça consiste à extrapoler, à imaginer la toxicité d'une substance chimique, à partir d'une réflexion sur sa structure. Parce que, avec le recul dont on dispose, on sait qu'un certain nombre de molécules, par exemple, qui ont une fonction phénol, ont telle toxicité sur tel organe, hein, ou des fonctions plus ou moins complexes. Donc, en étudiant la structure de la nouvelle molécule, ou de celle dont on se sert, on peut prédire et déjà avoir une idée de ce qu'on peut attendre. Là encore, c'est quand même un peu mince, pour prédire les effets sur un nouveau produit chimique, n'est-ce pas? Alors là, j'ai un petit peu de problème d'animation. Donc ça, ce sont des cultures cellulaires, hein, et ça, ce sont des œufs embryonnés. Voilà. Donc malheureusement, les méthodes alternatives ne pourront pas remplacer, à mon avis, toujours l'expérimentation animale. Et si vous voulez, comme on l'a dit, on peut s'arrêter peut-être à maintenant pour entendre quelques-unes de vos remarques sur le sujet avant de passer à l'animal producteur de denrées. Je ne sais pas si vous avez des réactions, des réflexions sur ce sujet.
Donc il y a une notion, c'est la dose létale 50 qui détermine beaucoup de choses. Hein. Et donc là, on va jusqu'à la mort qui arrive, on va dire, naturellement du fait de l'intoxication expérimentale. La plupart des molécules connues ont toutes la DL50 et on ne la recommence pas, mais pour les molécules nouvelles, on passe toujours par la DL50.
Justement, non. Hein, vous faites référence à une notion que je n'ai pas développée ici. DL50, ça veut dire dose létale 50%. Hein, c'est quand on fait des tests pour de mortalité, pour connaître la toxicité d'un produit chimique, la première chose, c'est par là qu'on a commencé, on se dit, bon, est-ce que cette substance est mortelle ou pas, hein. C'est sûr que là, on est mort, on est vivant, il n'y a pas à discuter. Et comme il y a toujours une variation biologique, une variabilité biologique, même dans une lignée de rats issus des mêmes parents et autres, on raisonne statistiquement sur la dose qui a fait mourir la moitié du lot en question. Alors, on a longtemps, effectivement, fait appel à la DL50, mais aujourd'hui, c'est un vrai recul. Maintenant, ça n'est plus du tout systématiquement demandé. Et quand la substance ne semble pas très toxique, eh bien, autrefois, on poussait, on le gavait jusqu'à ce qu'on obtienne cette fichue dose mortelle. Mais aujourd'hui, quand on voit que jamais on sera exposé à des niveaux équivalents, eh bien, c'est terminé. On ne demande plus la DL50. Si ça peut vous rassurer, vous voyez, il y a vraiment un mouvement qui va jusque-là et on teste une dose. L'idée, c'est d'être vraiment le plus près de la réalité. On estime, pour une nouvelle, supposons une nouvelle substance, ou même simplement le pentothénol ou le dimethicone, on évalue à quel niveau on pourra, dans les conditions les pires, être exposé. Et on va vérifier si, avec un facteur quand même de sécurité, à ce niveau-là, c'est dangereux. Et si on n'obtient rien, si l'animal n'est pas mort, si aucun animal n'est mort, eh bien, on conclura sur le dossier DL, dose létale, supérieure à 3 grammes par kilo, supérieure à 10 grammes par kilo. Mais si ça peut vous rassurer, c'est déjà un progrès. Là, on ne cherche pas à tout prix à trouver des doses mortelles.
Parce que ça conditionnait l'étiquetage avec l'état de mort. Et donc aujourd'hui, comment ça se passe sur une substance nouvelle? Il y a toujours ce classement de très toxique et toxique.
Oui, ça conduit, effectivement, ça détermine...
Mais donc, c'est plus établi sur la DL50 aujourd'hui ?
Si, mais effectivement, la si la dose létale est obtenue en fonction de son chiffre, donc là, on aura l'étiquette très toxique, moyennement toxique. Mais si la DL...
Peut-être qu'en toxicité in silico, on prédit un peu qu'il y a des molécules qu'on ne va pas fabriquer parce qu'elles sont dans une lignée de substances très toxiques, quoi. Avec certains métaux ou des choses comme ça, j'imagine que c'est des molécules, des produits chimiques qui ne se fabriquent plus. Quoi. On peut espérer.
Mais les polycorosis... Alors, je ne sais pas si l'approche in silico permet vraiment d'aller jusqu'à prédire la dose mortelle. Effectivement, maintenant, il y a des choses qu'on ne fabrique plus, les amines primaires aromatiques, des choses comme ça. Mais est-ce qu'on va aller jusque-là? Et puis, à chaque fois, il y a aussi un risque, balance bénéfice-risque, n'est-ce pas, un nouveau médicament qui semblerait particulièrement, enfin qui permettrait de traiter une dose, une maladie mortelle très rapidement elle-même, on se permettrait effectivement un effet de toxique potentiel plus important que pour un produit du quotidien, bien sûr. Mais la dose mortelle n'est plus forcément demandée. On s'adapte maintenant à... Alors, dans le règlement REACH, il y a plusieurs niveaux. Bien sûr, toutes les substances ne font pas l'objet des mêmes exigences. Ça dépend d'une part du tonnage. Si la substance est très présente pour nous, si on risque d'y être exposé très fréquemment, on sera beaucoup plus exigeant que si c'est un produit auquel certains d'entre nous n'auront jamais accès ou qu'on verra deux, trois fois dans notre vie. Ça dépend du tonnage, ça dépend de son usage. On essaye normalement de réfléchir de plus en plus.
Et sur les tests de corrosivité, donc là vous évoquez la corrosion sur l'œil et sur la peau, ça ne se fait plus sur l'animal vivant.
Non, là je pense que vraiment ça a été vraiment... Là on a vraiment pu trouver des alternatives. Là il s'agit d'un effet direct le plus souvent. Le principal problème, comme je vous dis, c'est le cheminement, la métabolisation, la dégradation, le changement des molécules. Les niveaux, c'est ça le principal problème et qui fait qu'on ne peut pas se passer des méthodes in vivo, mais tout ce qui est effectivement un contact, on a pu s'en passer.
Et si on prend la cancérogenèse, là, donc on fait des intoxications à long terme, et puis on finit à un moment donné avec l'euthanasie.
Alors tous les animaux normalement qui font l'objet d'études expérimentales sont tous euthanasiés.
Oui, à terme, j'entends bien, mais pour déterminer, puisque le cancer va arriver avec une latence qui est pas définie à l'avance. Hein. Il y en a qui sont assez rapides, il y en a d'autres qui sont sur des semaines ou des mois. Alors je ne sais pas trop comment on extrapole avec les petits animaux, hein, si ça va plus vite que chez l'homme.
Alors pour les études de cancérogenèse, comme vous le dites, hein, comme vous le savez, le cancer peut mettre plusieurs années chez l'homme avant de se manifester vraiment. Donc ce sont des études longue durée également chez l'animal. On utilise essentiellement des rats pour ça et on les expose pendant 2 ans. Un rat, ça vit à peu près 3 ans. Donc ça fait quand même les 2/3. Et plus on attend, c'est pas qu'on veut pas attendre et qu'on veut raccourcir trop vite, mais plus on attend, plus interviennent les... phénomène de vieillesse aussi chez le rat et qui qui nous mettent tellement de biais qu'on a beaucoup de mal à en tirer des conclusions. Mais pendant 2 ans, on va devoir, on les expose. Et il faut également un très grand nombre d'animaux pour les études de cancérogenèse, parce que le cancer, c'est vraiment une réaction individuelle. Hein, on n'a pas des épidémies de cancer, on a une grande variabilité. Donc pourquoi certaines personnes présentent un cancer, d'autres non? Alors bien sûr, maintenant, il y a des choses bien connues, comme le cancer du poumon et la cigarette. Mais même dans ces conditions-là, hein, il y a des grands fumeurs qui, fort heureusement pour eux, beaucoup ne présenteront pas de cancer. Il y a vraiment une grande sensibilité individuelle, donc il faut un très grand nombre d'animaux, et ça pèse très lourd, effectivement, dans l'expérimentation animale. Pour pouvoir tirer des observations, il faut tester non pas une dizaine de rats, mais...
Une question un peu moins technique, c'est quoi l'hydre d'eau douce?
C'est effectivement alors là, vous me posez un petit peu une colle aussi, j'avoue, parce que c'est un animal qu'on n'a pas souvent l'occasion de soigner en tant que vétérinaire. C'est un animal très simple, en fait, du poumon. Et j'avoue que je suis un petit peu sèche pour vous répondre. Un animal, du point de vue de sa structure extrêmement simple, donc qui se reproduit rapidement, qui permet des études assez simples. Mais je peux difficilement vous en dire plus, désolé.
J'aurais une double question. Depuis ce timide début de prendre en compte la souffrance de l'animal en 1850 que vous l'avez évoqué, est-ce que ça complexifie votre travail de chercheur, le fait que, ou est-ce que c'est accepté par le corps vétérinaire et le corps médical en général pour aller vers ça facilement? Et où est-ce que les résultats sont beaucoup plus complexes à obtenir, puisqu'il y a un souci de plus en plus important de l'animal? Et puis je voyais que c'était des directives européennes et nord-américaines, et comment ça se passe? Je ne sais pas s'il y a énormément de laboratoires de recherche ailleurs dans le monde, mais est-ce que c'est, j'allais dire, uniquement européen et nord-américain, ou est-ce qu'on trouve ce même genre de soucis, de penser au bien-être de l'animal partout dans le monde. Voilà, c'est un peu mes...
Alors, sur votre première question, bien sûr, chez les vétérinaires en particulier, c'est bien sûr facilement accepté, mais ça complexifie. Effectivement, alors, ça oblige à plus de rigueur, et effectivement. C'est vrai que ça a compliqué le travail d'un certain nombre. On peut considérer que c'est moins simple, c'est sûr, qu'autrefois, mais l'ensemble des chercheurs s'y plient. Supplie sans protester, de toute façon, il n'a pas de choix, effectivement, et puis c'est vraiment un mouvement de société qui touche également les chercheurs. Par contre, c'est effectivement des démarches des pays occidentaux, et dans d'autres pays du monde, on sait qu'on fait encore des expérimentations sur les chiens, sur des, alors que, bien sûr, chez nous, c'est tout à fait inenvisageable. C'est beaucoup plus laxiste dans beaucoup de pays dans le monde ailleurs, hein, c'est sûr. Les choses bougent, c'est un peu général tout ça.
Et par ailleurs, est-il... je crois savoir que les Américains élèvent des porcs pour envisager des greffes de cœur, comme une a été tentée déjà. Est-ce que...
C'est vrai,
un comité d'éthique se prononcerait chez nous sur... la nécessité d'élever des animaux destinés à produire des organes destinés à être greffés sur l'homme, puisqu'il semblerait que le cœur du porc soit le plus proche de celui de l'homme, alors que Carmat n'a pas réussi jusqu'à présent le cœur artificiel.
Alors effectivement, dans l'utilisation de l'homme pour notre santé, je vous ai parlé essentiellement des produits toxiques, parce que c'est ce que je connais le mieux, mais il y a également cette approche-là. L'animal source d'organes pour l'homme, et c'est vrai que, en citant des espèces, j'ai oublié le porc, qui est effectivement celle qui semble la plus proche de nous. Mais encore une fois, ça n'est pas, pour ce qui est des tests de toxiques, ça n'est pas la règle, hein, ça dépend vraiment de la substance. Alors, l'animal source d'organes pour l'homme, j'avoue que je ne connais pas les textes réglementaires dans ce domaine chez nous, mais c'est quand même une question à se poser, une question tout à fait éthique. Est-ce qu'on est d'accord? Je pense qu'on utilise, finalement, on utilise l'animal pour le manger, utiliser, l'élever dans de bonnes conditions pour se servir de ses organes, ça me semble pas très très différent dans l'approche, mais ça, ça va demander effectivement des discussions éthiques, enfin des comités d'éthique à Bruxelles. Donc, si vous voulez, on peut passer au deuxième aspect,
oui.
L'animal que nous mangeons ou que nous faisons travailler, hein, les deux sont un petit peu dans la même chose. Alors là, il y a deux questions qui peuvent se poser. D'une part, comment la souffrance qu'on peut leur imposer dans nos conditions d'élevage, d'entretien. Et puis, la question plus précise pour ce que nous mangeons, l'abattage. Alors, les conditions d'entretien, c'est donc tout le mouvement qu'on connaît actuellement sur le bien-être animal. Pendant longtemps, on n'est pas très beaucoup soucié, on considérait essentiellement qu'il fallait des conditions suffisantes pour que l'animal produise, puisque c'est ça qu'on attendait de lui, et que le travail humain soit facile. Aujourd'hui, la question est bien compliquée par l'avancée de la demande du public en termes de bien-être animal. Donc il y a une définition de l'ANSES. L'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire et environnementale, donc c'est l'ANSES, hein, c'est celle qui, l'agence française, hein, qui s'occupe donc de notre santé, enfin des questions de santé humaine et environnementale, et qui a donné cette définition. Donc il s'agit d'un état, et là, non seulement physique, la douleur au sens physiologique, mais mental également, et qui introduit vraiment des notions nouvelles, en particulier la satisfaction des besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes. Vous voyez, ça ouvre vraiment des champs là, très presque philosophiques. Alors en fait, bon, ça a quand même été un petit peu codifié par les cinq libertés. Voilà, le bien-être animal, ça se définit par cinq caractéristiques qu'on a appelées des libertés, qui sont les suivantes, donc on peut reprendre, qui sont maintenant admises et qu'on peut reprendre les unes après les autres. Bon, alors, la première, absence de faim, de soif et de malnutrition. Bon, ça, c'est pas un très grand progrès, puisque c'était quand même, on peut penser que jusqu'à présent, la plupart des éleveurs, bien sûr, ont un souci de bien-être vis-à-vis de leurs animaux, mais là, on leur demande vraiment d'aller plus loin. Alors, bien sûr, tous les éleveurs, normalement, essayent que les animaux n'aient pas faim, ni soif, ni soient mal nutris, parce qu'ils vont moins bien produire, hein, de toute façon. Donc ce premier point est assez facile à rendre compte. Ensuite, on va introduire la notion de peur et de détresse, donc pas de souffrance psychique, c'est déjà plus difficile à évaluer. Pas de stress non plus, alors le terme stress, c'est vraiment très galvaudé, mais un stress physique ou thermique, donc là, des points un peu précis, il ne doit pas souffrir de chaleur torride en été, d'avoir trop de gelée en hiver, l'absence de douleur, là au sens physiologique du terme, et de maladie, c'est-à-dire qu'il faudra soigner les animaux malades, un animal malade devra forcément être soigné. Et puis ce qui est plus nouveau et plus complexe, il doit pouvoir exprimer les comportements normaux de son espèce. Alors c'est ce dernier point là qui est vraiment nouveau par rapport aux quatre premiers, hein. Les quatre premiers, c'était finalement entretenir un animal le mieux possible, et c'était, on peut le dire, souvent bien respecté déjà de la part de la plupart des éleveurs. Le dernier point est plus complexe, et sans doute l'environnement doit être adapté à ces espèces, à son espèce. Donc ça pose différentes questions pratiques en élevage aujourd'hui. Donc cette notion de bien-être animal, elle rentre petit à petit dans la réglementation française. Donc déjà, l'aspect douleur, maintenant, on prend en compte et on discute, hein, n'est-ce pas, un certain nombre d'interventions qu'on faisait sur les animaux d'élevage, qui étaient douloureuses, mais dont on avait besoin pour diverses raisons. Par exemple, les cornages des bovins, la castration, la plupart des mâles, hein, on ne mange pas des mâles entiers, l'odeur de l'animal, l'odeur de la viande d'une part, et puis l'élevage d'animaux entiers, c'est déjà plus difficile. Alors, il y a des interventions qui, là, maintenant, ont été réellement abolies, interdites, comme la, enfin, ou en tous les cas, contrôlées, pardon. Pendant longtemps, on castrait les porcelets à la pince, effectivement, sans anesthésie. Maintenant, c'est interdit. Depuis, en fait, c'est très récent, la castration. Il va falloir systématiquement passer par l'anesthésie. Et ce qui est plus nouveau aussi, ce dont on parle très peu, c'est l'obligation maintenant, dans les élevages, d'avoir un référent bien-être. Un référent bien-être, ce sera en fait un éleveur. Ça ne va pas être des personnes extérieures. Mais on va demander aux éleveurs, dans les grands élevages et autres, de se former, de suivre une petite formation montrant qu'ils ont des connaissances en bien-être et qu'ils sont capables donc, de respecter le mieux possible les cinq libertés dont on vient de parler. Il y a eu également ce fameux décret sur les broyages des poussins. Vous voyez, toutes des choses qui sont très récentes, hein, puisque cette notion de bien-être, bon, qui remonte maintenant, effectivement, à plusieurs années et autres, à la fin du XXe siècle, mais le temps que ça rentre dans les textes, qu'on prenne vraiment des mesures... Ça prend un peu de temps, mais vous voyez, ça s'accélère. Hein. On n'a plus le droit de broyer les poussins comme on le faisait jusqu'à présent. Et on va maintenant chercher à déceler le sexe par l'observation de l'œuf pour ne garder effectivement que les poussins femelles le plus souvent. Voilà, donc plusieurs interventions là, qui vont toutes dans le bon sens. Il y en a une autre là, qui s'approche des poules en cage. Hein. Donc c'est vrai que pendant un certain temps, on a élevé des poules vraiment dans des conditions de surpopulation hein, qui aujourd'hui nous choquent énormément. Et maintenant, donc, c'est une décision qui pourrait intervenir prochainement. D'autres interventions peuvent subir le même chemin, mais elles demandent peut-être plus de réflexion. Comme par exemple la coupe de la queue chez le porcelet. Alors pourquoi plus de réflexion? Parce qu'en soi, alors bien sûr qu'on peut se dire que c'est une maltraitance de couper la queue des porcelets, mais on se rend compte aussi que si on ne le fait pas, eh bien les porcelets entre eux se mordent les queues et se font très mal. En fait, et que c'est aussi une façon de le protéger. Et je crois qu'on va petit à petit effectivement parler plus de ça. Méfions-nous d'un certain anthropomorphisme et essayons avant tout de bien comprendre où est le bien-être de l'animal. Là, je ne vais pas répondre parce que moi-même, je ne suis pas du tout suffisamment spécialiste du comportement des animaux d'élevage. Mais est-ce que ça ne serait pas mieux pour les porcelets qu'on continue à leur couper la queue, éventuellement même sans anesthésie? C'est une souffrance. Parce que ça va être difficile peut-être de prévoir l'anesthésie pour tout le monde, que de les laisser avec leur queue et pour beaucoup de se voir ensuite mutilés. Les animaux entre eux ne sont pas toujours tendres, n'est-ce pas? Et il y a un certain nombre de mesures pour lesquelles il ne faudrait pas qu'on aille trop vite pour ne pas avoir l'effet inverse de ce qu'on attend. Alors cette question du bien-être animal, elle est vraiment au cœur des discussions et elle prend de la place de plus en plus également dans la politique agricole commune et autres. Et vous avez peut-être commencé à voir donc l'étiquetage qui commence à entrer en vigueur donc en France. Il y a maintenant l'étiquetage bien-être animal. Ce sont des étiquettes que vous trouverez sur les produits. Alors ça commence à se faire surtout sur les volailles. Ça va bientôt arriver sur le porc également. Encore j'ai des petits doutes. Hein. Vous voyez, on va évaluer, hein, donc les élevages vont être évalués dans leur façon de respecter les cinq libertés, et ils recevront une note, la meilleure c'est le A, ensuite bien, c'est un peu trop mal, assez bien, mais j'avoue que les éleveurs qui auront une note E, je pense qu'ils auront beaucoup de mal à vendre leurs produits, et ça va s'appuyer donc ça sur la notation, le mode d'élevage, les conditions d'élevage telles qu'on vient d'en parler. Hein. Vous voyez, par exemple, les bouées de lait de louer, je ne fais pas de pub et autres, mais sont rentrées. Alors, pour l'instant, c'est encore une démarche volontaire, hein, ça n'est pas obligatoire, mais ceux qui le souhaitent peuvent rentrer dans cette démarche et demander à avoir un étiquetage bien-être. Alors là, on ne voit pas bien le détail, mais les poulets, oui, on, la note A, hein, sont des poulets en liberté, et pour lesquels les éleveurs, la charte des poulets du label poulet de Loué permet de vérifier que toutes les libertés sont respectées le mieux possible. Et ça va prendre de plus en plus de place, et en fonction de l'attitude du consommateur qui fera plus ou moins attention, ça sera un critère effectivement de vente, un critère commercial important. Donc un certain nombre de mesures qui sont de plus en plus prises pour protéger le bien-être animal. En termes d'abattage, c'est plus compliqué. Et là, il y a beaucoup à faire, sûrement. Aujourd'hui, en France, donc, les animaux doivent être immobilisés et étourdis. Hein. Étourdis, c'est le mot pour dire qu'ils doivent être insensibilisés, donc, avant la saignée. Parce que pour consommer de la viande, il faut qu'on saigne l'animal. Il faut que l'animal soit vidé de son sang. Et pour ça, il faut que le cœur continue de battre, sinon le sang ne va pas sortir. Donc que l'animal soit toujours vivant, si on part pour un principe que le cœur qui bat, c'est un animal vivant. Donc en France, normalement, l'étourdissement est obligatoire. Il se fait de différentes façons. Alors chez les bovins, c'est un pistolet particulier. Donc l'animal est amené dans un couloir et il reçoit un coup de pistolet. Enfin, c'est pas une balle, c'est une lame qui perce un endroit bien précis de son cerveau qui va conduire à ce qu'on pense être donc l'insensibilisation, et la saignée doit survenir aussitôt. Chez les moutons, on peut utiliser l'électronarcose, donc avec l'animal est électrocuté et il sera immédiatement saigné également. Alors tout ça n'est pas toujours très, très bien fait. Pour les porcs, c'est plus une atmosphère riche en gaz carbonique, c'est une asphyxie, une perte de connaissance liée à l'asphyxie. Pour les volailles, on les plonge dans... Alors elles sont électrocutées également, mais pas comme le mouton, parce que c'est trop petit, on ne peut pas faire volaille par volaille. Elles sont plongées dans de l'eau dans laquelle circule un courant électrique. Et elles sont immédiatement électrocutées. Le problème, c'est que pour les plonger dans ce bain, en général, on les suspend par une patte, ce qui par deux pattes, mais la phase préalable, elle, est sûrement source de souffrance. Hein. Et là, on voit la notion d'abattage lui-même, qu'on essaye donc de rendre le moins douloureux possible, mais il y a toute la phase préalable, l'arrivée dans le couloir, le stress. Alors, tout ça, normalement, est quand même, je vous rassure, je sais que tout le monde sait qu'il y a des failles, que ça n'est pas parfait, mais c'est quand même, sur le papier, fait le mieux possible, c'est-à-dire que l'arrivée doit se faire en douceur, l'animal ne doit pas être stressé, il doit être accueilli paisiblement. Il y a toute une série de textes qui précisent comment transporter l'animal, l'accueillir à l'abattoir, faire vite pour qu'il ne stresse pas et qu'il ne s'angoisse pas pendant de nombreuses heures. Mais tout cela reste bien sûr encore difficile, et comme le dit diverses associations de protection, L214 par exemple, en particulier bien sûr, qui est peut-être excessif dans sa façon de procéder sur un certain nombre de points, mais il faut lui reconnaître effectivement d'avoir de jouer le rôle de lanceur d'alerte sur le fait que ça n'est pas toujours fait dans des conditions telles qu'elles devraient. Alors il y a L214 et des associations du même genre, mais il y a également d'autres organismes qui sont préoccupés. En particulier, je voudrais vous parler de l'OABA, bien sûr. L'OABA qui s'appelait initialement, c'est une association, qui s'appelait initialement l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir. Les bêtes d'abattoir, c'est une façon de s'exprimer qui remonte au XXe siècle, au milieu du XXe siècle même. Aujourd'hui, cette façon de s'exprimer choque un petit peu le public sans doute. Donc, très récemment, l'acronyme a été remplacé par l'amélioration du bien-être animal et la protection des animaux et de l'élevage à l'abattoir. L'OABA, c'est une association qui rassemble donc des gens et beaucoup de vétérinaires, en particulier le docteur Jean-Pierre Kieffer, auquel le Café Citoyen, que vous aviez contacté il y a 2-3 ans et qui malheureusement nous a quittés récemment, et donc il ne peut pas être là ce soir, mais sinon, je ne sais pas si vous aviez eu un contact ou si vous avez répondu ou pas, mais lui aurait été particulièrement bien placé parce qu'il s'est vraiment dévoué pour l'OABA. Bon, d'autres ont pris la suite. C'est une association assez originale quand elle a été créée, donc dans les années 50, je pense, 1960. Elle avait pour but de protéger les animaux de ferme, ce qui était quand même quelque chose d'assez nouveau, hein, parce qu'il y avait la SPA, il y avait pas mal d'associations qui se préoccupaient des animaux de compagnie et autres. Mais les animaux de ferme, il n'y avait personne. L'OABA a vraiment souhaité les protéger de l'élevage à l'abattage. Hein. Donc l'OABA s'occupe pas seulement de l'abattage, mais vraiment essaye de venir en aide, vient en aide aussi. Elle n'est pas là pour enfoncer les éleveurs qui s'y prennent mal. Elle est là avant tout pour les aider, mais également pour venir mettre de l'ordre dans des élevages qui sont laissés à l'abandon, et dans lesquels l'éleveur ne s'en sort pas, et ce qui conduit à des maltraitances. Et c'est grâce à l'OABA, hein, apparemment, qu'on a obtenu ce décret d'abattage humanitaire. Alors, elle se sensibilise, elle est vraiment particulièrement active dans tout ce qui concerne l'abattage. Et c'est vrai qu'elle s'est penchée récemment sur une question très polémique, mais l'abattage rituel, hein, parce que comme je vous le disais, l'insensibilisation, l'étourdissement est obligatoire en France, sauf dérogation, et ces dérogations, c'est donc celle de l'abattage rituel pour la religion musulmane et juive peut-être aussi, hein, j'imagine. Donc un certain nombre d'abattoirs en France sont autorisés à pratiquer l'abattage rituel, c'est-à-dire la saignée sans étourdissement. Or ça, c'est quand même... il ne s'agit pas d'entrer dans des polémiques, bien sûr, sociétales, mais il est prouvé du point de vue physiologique, il y a eu des études de fait scientifiques, que ces minutes de saignée sans étourdissement sont des minutes de souffrance. Et l'OABA s'est vraiment battue pour ça, et bon, c'est une question de société. Certains pays d'Europe, je crois, n'acceptent pas l'abattage rituel. En France, bon, je n'entre pas dans le débat, mais ce qu'il faudrait, ce pourquoi l'OABA a essayé de se battre aussi, mais qu'on n'arrive pas à obtenir, c'est que ce soit au moins écrit sur les barquettes. Or, il faut bien savoir que dans les biais, les choses qui ne sont pas très nettes, il y a un certain nombre d'abattoirs qui sont autorisés à faire de l'abattage rituel sans étourdissement. En fait, tout le monde passe sans étourdissement, y compris la viande que vous achetez qui n'est pas étiquetée halal. Et ça, parce que c'est beaucoup plus facile, ça va plus vite, hein. Enfin, c'est des conditions économiques. C'est des choses qu'on a du mal à accepter. Et l'OABA a obtenu quelque chose quand même de vraiment important, qui est qu'on ne puisse pas avoir le label agriculture biologique, élevage biologique sans étourdissement. Donc, si vous achetez de la viande bio, vous serez sûr, hein, qu'elle a forcément été étourdie. Ce n'est pas le cas si elle n'est pas bio, peut-être. Dans beaucoup d'abattoirs, ça se fait, mais quand il y a une grosse proportion d'abattage rituel, ben, malheureusement, tout passe dans les mêmes conditions. Alors, il y a également d'autres pistes pour améliorer l'abattage. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'abattoir mobile, hein, d'autant plus que ça commence à se développer en Vendée. L'abattoir mobile, alors on ne le voit pas bien, hein, mais il est derrière, là. C'est né sous l'impulsion d'une jeune femme qui est éleveuse de bovins charolais, enfin de bêtes à viande dans le centre de la France, là, dans la Creuse, je crois, et qui s'est battue pour développer l'abattoir mobile et qui a d'ailleurs eu un prix de l'OABA. C'est un abattoir, donc plutôt que d'emmener les animaux à l'abattoir, c'est l'abattoir qui va vers les animaux et ça va donc diminuer beaucoup le stress lié quand même à la phase préalable, c'est-à-dire la montée dans le camion. Enfin là, il y aura quand même un camion dans lequel il faudra monter, mais il n'y aura pas le transport sur la route, il n'y aura pas non plus l'attente à l'abattoir, les conditions plus ou moins approximatives dans lesquelles les animaux sont reçus. Donc c'est le camion qui se déplace dans le pré. Là, les animaux vont monter plus facilement, plus en douceur, même si c'est sans doute un petit peu très simple pour eux aussi. Et là, il n'y aura pas d'attente, ils vont très vite être étourdi et découpé, saigné et découpé. Donc l'abattoir mobile, ça commence à se développer. Il y a des élevages en Vendée, hein, qui commencent à s'y mettre. Alors ça ne peut pas la panacée non plus. Bien sûr, ça, c'est difficile d'imaginer l'abattoir mobile pour de gros effectifs. C'est également plus coûteux. Alors jusqu'où sommes-nous prêts à payer nos produits plus chers pour améliorer la souffrance, enfin pour limiter la souffrance animale? Je pense que c'est une question essentielle. Mais chacun y est de plus en plus sensible la viande, si on peut parler comme ça, de bovins ou de volailles, on commence de plus en plus aussi à se préoccuper des poissons. Finalement, qui ressent la douleur? Alors, on a parlé de l'hydre d'eau douce tout à l'heure. Je n'ai pas fait trop de physiologie au départ. On peut considérer quand même que la douleur telle qu'on la comprend, nous, elle est ressentie essentiellement par les vertébrés, c'est-à-dire qu'ils ont un système nerveux central. Bon, les invertébrés, les mollusques, etc., les insectes, ressentent-ils une douleur? Sans doute pas comme nous. Et là, il est peut-être plus difficile de les prendre en compte, mais les poissons doivent souffrir également et autres. Et là, maintenant, on commence aussi à poser des questions sur les poissons. Alors, l'Eurogroupe for Animals, c'est une association, j'avoue que je n'ai pas beaucoup de données à son sujet, mais j'ai repris ce texte parce qu'elle a identifié effectivement des facteurs de souffrance. Et il est sûr que des poissons écrasés dans un filet, cette compression, cet écrasement, vraisemblablement source de douleur, les blessures physiques, les mâchoires arrachées et autres, la déprédation, le fait qu'ils sont, que le produit se dégrade pendant tout le temps, l'organisme se dégrade pendant tout le temps où il attend dans le filet, les chocs thermiques, parce que le poisson vit à une certaine température, souvent au fond de l'eau, il est remonté brutalement en surface lors de la remontée du filet, c'est un stress qui est probablement douloureux. Les barotraumatismes, c'est-à-dire les changements de pression, l'épuisement, parce que le poisson se débat pour essayer de sortir du filet, et puis au final, l'asphyxie. Donc effectivement, c'est sûrement... Encore, que pouvons-nous faire? Devons-nous arrêter de pêcher des poissons? On peut peut-être quand même essayer de limiter les choses, en améliorant la façon de pêcher. Il y a une réflexion donc, qui s'engage aujourd'hui là-dessus. Et puis, vous l'avez peut-être entendu aussi, de nouvelles façons, sinon d'abattage, mais de sacrification du poisson. Et la fameuse méthode, comment ça se prononce, Ikejime, sans doute, c'est du japonais, et qui consiste à tuer le poisson d'une façon, au lieu de le laisser, finalement, ce qu'on fait aujourd'hui, on le laisse mourir d'épuisement, d'asphyxie. Et il y a des poissons qui résistent très peu de temps, comme la truite. Et puis il y a des poissons qui vont agoniser pendant de nombreuses heures. Alors plutôt que de les laisser de cette façon-là, il y a une façon qui est en quelque sorte de les euthanasier brutalement. Là, on n'a pas besoin de les saigner, il s'agit vraiment de les tuer brutalement, et avec une mort cérébrale. Je n'ai pas de schéma, pas de dessin, mais si on a bien compris la technique, il faut piquer dans un point bien précis du crâne du poisson, pour entraîner une mort rapide. Il paraît en plus que le poisson est meilleur. Hein. C'est peut-être d'ailleurs ça ce qui, au départ, a motivé le développement de cette technique. Voilà, donc beaucoup de questions qui sont liées à notre façon alors, d'élever, d'une part, mais ensuite d'abattre les animaux que nous mangeons, qui permettent de comprendre pourquoi le mouvement végétarien et vegan se développe de plus en plus. Je pense que là aussi, il y a beaucoup de discussions qui pourraient s'en suivre. L'homme reste un animal omnivore, hein, au départ. Bien sûr qu'on peut être végétarien et en bonne santé, ça demande quand même un équilibre très un petit peu sérieux. Hein, et je pense que beaucoup de végétariens peut-être doivent également se supplémenter en vitamine B12, en fer. Ma belle-fille, par exemple, qui est végétarienne et qui a eu un bébé il n'y a pas longtemps, elle était enceinte, et son médecin lui a demandé d'arrêter parce que visiblement elle était anémiée. Et c'est quand même un petit peu artificiel, hein, mais ça peut se justifier. Je ne veux pas dire que le végétarisme n'est pas une bonne chose, mais au départ, physiologiquement, nous sommes un animal omnivore. Nous avons besoin de la viande et des animaux, en particulier pour le fer, pour la vitamine B12, pour peut-être certains autres oligo-éléments. Alors, une supplémentation artificielle est-elle nécessaire? Je vous pose la question. Est-ce qu'on va s'arrêter là pour cette deuxième partie?
Alors, il y a le débat.
Si certains d'entre vous sont déjà végétariens, ce que vous en pensez, il est sûr de toute façon que du point de vue écologique, en tout cas, nous allons devoir réduire notre consommation de viande. Mais ça va chercher loin si nous arrêtons les animaux d'élevage, si nous arrêtons l'élevage des bovins, en particulier, que vont devenir nos prairies, hein. C'est la fin des prairies. Et puis, ça va très loin du point de vue écologique, comme vous le savez sans doute. Donc en fait, les équilibres écologiques reposent sur les cycles biogéochimiques, c'est-à-dire le passage de la terre, des éléments du sol dans la plante, qui sont mangés par les herbivores, qui sont ensuite mangés par les carnivores, qui sont mangés par les détritivores. Du coup, ça revient à la terre et le cycle reprend. Si on ne mange plus que des légumes, enfin, que des céréales, comment va-t-on les fertiliser? C'est une question qu'on peut poser. On va donc faire pousser des céréales, des légumes et autres. On n'utilise plus les animaux, qui sont donc des animaux sauvages, en petite population, hein, puisque la cohabitation est difficile. Donc, on va faire des engrais chimiques, parce que sinon on n'aura jamais assez à manger. Alors que si on continue d'utiliser l'élevage, la bonne façon de faire, à mon avis, c'est proposé également par différents agronomes ou écologues actuellement, c'est de refaire un élevage lié au sol. Lié au sol, dans le sens où les bovins mangent ce qui est cultivé dans l'exploitation et rapportent ensuite leur déjection qui permet de faire le cycle à l'échelle de l'exploitation. Ce qui n'a pas de sens aujourd'hui, c'est effectivement de nourrir les vaches françaises avec le soja américain du Brésil, hein, puisque les déjections de nos vaches ne vont pas retourner au Brésil. C'est artificiel. Donc, consommer moins de viande, mais revenir à un élevage lié au sol qui est grâce aux déjections animal, fertiliser les plantes, ou alors reprendre nos propres déjections, je ne sais pas. Mais ça pose une question beaucoup plus vaste que le simple respect. Je vous propose de terminer avec le troisième aspect. Là, ce sera peut-être plus facile pour de régler les problèmes.
Sur la pêche industrielle, enfin, vous voyez, les filets dérivants, enfin, les bateaux-usines japonais ou autres, etc., je veux dire, qu'est-ce qu'on peut envisager pour que cette pêche soit plus respectueuse, puisque...
Là, je ne sais pas si c'est forcément uniquement une question de bateaux-usines et autres. Là, le problème des bateaux-usines et autres, c'est plus un problème d'épuisement de la ressource.
Ouais. Ouais.
En termes de techniques de pêche, finalement, elles sont un peu toutes pareilles. Et c'est le fait de rassembler des poissons qui s'écrasent dans un filet, qui sont sortis de l'eau brutalement et haute. Je ne sais pas si la pêche artisanale est forcément meilleure pour le bien-être des poissons. Enfin, elle n'est pas pire, sûrement, mais là, ils sont un petit peu tous au même niveau. Comment peut-on améliorer ou diminuer la souffrance des poissons? Comment la prendre en compte? Comment est-elle ressentie exactement? On a plus de mal, bien sûr, à ça. S'identifier un poisson.
Ah oui, ça ne crie pas, enfin, il crie peut-être, mais nous on ne les entend pas, donc ce n'est pas comme un animal, un porc, un bovin ou une poule. Donc je dis, comment on peut diminuer ça? Je ne t'ai jamais posé la question avant ce soir.
Donc, effectivement, c'est quelque chose qui
fait venir.
Qui émerge depuis peu, là, qui est très récent, et ouais. Qui complique encore la tâche.
C'est le filet, quoi. C'est le filet. Si on supprime le filet, on a une autre forme de pêche. Mais
la pêche électrique, c'est pas seulement un problème de souffrance des poissons, c'est aussi de destruction de tout ce qui vit. Ouais, les filets qui raclent le fond, les filets dérivants qui pêchent pour leur compte.
Ouais. Oui, et puis de toute façon, bon, la prédation, le fait de manger les animaux, ça, en soi, c'est indispensable à la nature et au fonctionnement normal de la planète. Alors, est-ce que l'homme doit se mettre au même niveau? Est-ce qu'il peut se passer de manger des animaux? C'est là aussi la question. À la fois pour sa santé et puis aussi pour notre mode de vie. C'est vrai qu'on considère quand même que l'homme est à part, n'est-ce pas? Mais sinon, tous les prédateurs, les carnassiers, heureusement qu'ils mangent les animaux. Et honnêtement, c'est parfois très cruel. Et les animaux doivent souffrir terriblement quand on les dévore. Alors, c'est pas une raison pour s'excuser. C'est pas excuser de faire n'importe quoi. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais en soi, manger un animal, le tuer, c'est quelque chose inhérent à notre planète. Alors, l'homme qui a une place effectivement à part, comment doit-il aborder ce problème, n'est-ce pas?
Le problème, c'est peut-être pas tellement l'homme, c'est l'homme d'affaires.
Ben, pas seulement.
Parce que seulement, la concentration, justement. L'élevage intensif, la pêche industrielle.
Même la pêche artisanale, la limite, même.
L'élevage, la pisciculture qui pollue tout autour avec les antibiotiques et qui nous contaminent.
Le problème de pollution, c'est une autre affaire.
Chaque fois qu'on concentre et qu'on recherche le profit au maximum, il y a ces problèmes non seulement environnementaux, mais médicaux pour notre espèce.
Oui, ça, la question des méthodes industrielles dans toutes les productions animales, c'est une autre. C'est un petit peu distinct quand même, parce que même des méthodes artisanales peuvent, sur la question de la douleur et de la souffrance, peuvent être répréhensibles aussi. Oui. Comme je vous disais, on va plus facilement régler le problème. Je posais beaucoup de problèmes, de questions démoralisantes parfois. J'espère que là, ce sera plus simple, bien que parfois ce soit aussi très, très choquant. Les animaux pour nos loisirs. Alors là, je vous propose de reprendre trois exemples également. Le premier, c'est la corrida. Alors, ce sera plus facile de parler de la corrida à la Chapelle-sur-Erre, bien sûr. Carles, autres. Moi, je fais partie effectivement de l'association Alliance Corrida, mais je pense que. Et là, le problème, c'est le poids des traditions. Mais je pense que personne ne peut contester que cet animal souffre, que c'est affreux de lui faire subir de telles choses, et qu'en plus, l'homme lui-même risque. Alors. Ces pratiques qui nous semblent d'un autre âge, parce qu'on n'est sans doute pas dans ces régions, comment répondre à tous ces gens qui disent « mais c'est la tradition ». Il y a plusieurs traditions comme ça, françaises et dans d'autres pays, qui font souffrir les animaux. Il y a la chasse également, certaines chasses traditionnelles dans le sud-ouest aussi. Alors aujourd'hui, petit à petit, la corrida recule, mais ça reste encore très présent, même chez les hommes politiques. Bon, là aussi, on a un certain nombre refusent de le condamner. Je ne sais pas quelle était la position de notre Premier ministre, de Jean Castex, qui lui était du Sud-Ouest. Enfin, ce n'était pas tellement dans une région corrida. Puis, de toute façon, maintenant, il a moins voix. Public, mais ça reste quand même une préoccupation, et les associations pro-corrida restent encore très actives, et l'Alliance Corrida se bat également en particulier contre le message qui passe encore auprès des écoles même. Alors, le faire passer auprès des enfants, ça nous semble particulièrement inacceptable aujourd'hui. Et c'est des choses qui se diminuent petit à petit, mais comment que répondre au poids des traditions, toutes les traditions, quelles qu'elles soient, dans le domaine de la douleur animale ou autre, ne sont pas forcément bonnes à conserver parmi nos traditions. Une autre, qui n'est pas exactement dans le domaine des traditions, c'est la chasse à courre. Parce que la chasse à courre, si on regarde bien ce que c'est, ça consiste à poursuivre, à l'aide d'une meute de chiens, un animal sauvage jusqu'à l'épuisement. Voilà, je trouve qu'il y a une cruauté, non seulement dans la mise à mort finale, qui sera sans doute douloureuse, mais je pense souvent à la terreur de l'animal qui est poursuivi de cette façon, qui va s'épuiser et qui est terrifié, je pense. Ce genre de choses, bon, là aussi, il y a des associations qui luttent contre, mais je pense que là, l'important, c'est que bon, je comprends que j'imagine que ça peut être effectivement un grand plaisir pour ces gens qui montent à cheval, qui ont appris ça depuis leur enfance peut-être, d'y renoncer, mais ça fait partie des choses auxquelles, je crois, la société doit demander le renoncement, parce que ça n'est plus compatible avec nos valeurs aujourd'hui. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà suivi, non, peut-être pas, c'est quand même une population très, très limitée. Mais là encore, ça se place à part dans la chasse. Le problème de la chasse, après, ça se discute, c'est vrai, il y a peut-être une façon d'équilibrer les espèces. Et puis, personnellement, je me dis qu'un animal qui reçoit une balle et puis pouf, qui meurt immédiatement, bon, c'est peut-être pas une bonne chose. Genre. Mais au moins, il n'a pas vraiment souffert au sens comme ce que souffrent les animaux de la chasse à courre. La chasse à courre, c'est vraiment à part. Il y a tout cet aspect psychique en plus de la mort de l'animal. Et peut-être, par contre, là, je me pose plus de questions sur les deux derniers. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de prendre la mesure qu'a pris Barbara Pompili d'interdire les animaux de cirque et les delphinariums? C'est une question que je pose. Là, je ne suis pas sûre que c'était forcément une priorité. C'était peut-être relativement facile, par contre. Et je vous propose simplement de relire ce paragraphe qui vient d'une association de défense des cirques de famille. Alors, c'est vrai quand même que... Je vais vous la prendre plus raccourci. Selon cette association... Alors, d'une part, il est vrai que c'est pas si simple. Ce ne sont pas des animaux qu'on est allé chercher normalement en Afrique ou en Malaisie, enfin ailleurs. Ce sont des animaux qui sont tous nés en captivité. Enfin, on dirait que ça ne change rien au fait que ça serait mieux de les laisser dans la nature. Je pense aussi qu'on ne peut pas obtenir des choses d'animaux. Hein. Vous êtes d'accord si vous avez un chien, un chat et autres, en le brutalisant et en le faisant souffrir. S'il nous obéit, c'est le plus souvent quand même parce qu'il a une relation de confiance avec son dresseur. Alors, c'est pas pour excuser tout ça, moi je voudrais juste me poser des questions et me dire que là on met peut-être un peu le pied dans l'anthropomorphisme, avec en particulier la notion de liberté. Ce qui nous choque dans cette façon d'élever les animaux, c'est pas tant le travail qu'on leur fait faire, hein, mais c'est surtout le fait qu'ils sont prisonniers. Normalement, on les imagine dans la nature et on les prive de liberté. C'est la même chose pour les parcs aquatiques. Là encore, faut-il interdire vraiment les delphinariums? C'est une question. J'ai repris aussi des positions récentes. Hein. Là, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature, donc une association de protection de la nature internationalement reconnue, qui considère que les parcs zoologiques aquatiques jouent un rôle dans la disparition des espèces. Là encore, on va finir un petit peu là-dessus. Finalement, il y a des choses là, qui nous semblent simples et incontournables, et puis d'autres beaucoup plus complexes. Et méfions-nous de l'ultra-simplification dans certains cas, ce qui revient en fait à l'anthropomorphisme. Est-ce qu'on est bien sûr de faire le bien pour les animaux? Cette notion de liberté en particulier, c'est quelque chose de très philosophique. La liberté pour les animaux sauvages, c'est aussi beaucoup la recherche permanente de la nourriture. On n'est pas sûr de manger ce soir, voire de mourir de faim. C'est également la terreur des animaux qui veulent nous chasser parfois. Enfin, je pense qu'il ne faut pas idéaliser trop la vie dans la nature. Quelles que soient les espèces, la vie sauvage, c'est difficile, c'est dangereux, c'est risqué. Et ça pose donc des vraies questions en termes d'anthropomorphisme. Laisser une... Alors, on a fait de gros progrès, n'est-ce pas, dans les... Et ça n'est pas remis en cause dans les zoos. Les zoos d'il y a 100 ans, ou même 50 ans peut-être, où les animaux étaient dans des cages, ça a disparu. Aujourd'hui, maintenant, on n'a plus que des choses comme porc-saint-père, ou toiries ou autres. Et là, je pense qu'il y a un peu de contestation. Les animaux n'ont pas leur liberté, un domaine infini, mais je pense que leur vie est meilleure que celle dans la nature. Et là, on peut considérer qu'on fait bien les choses. dans les grands parcs animaliers que l'on dispose en France. Par contre, dans les bassins des dauphins, sont-ils heureux? La question se peut se poser. Ils ont mangé tous les jours, ils n'ont plus à se poser cette question qui est quand même un souci majeur. Ils se reproduisent souvent. Le fait de se reproduire, c'est parfois considéré comme un critère de bien-être. C'est peut-être pas le juste, c'est peut-être pas la bonne chose. Voilà, c'est beaucoup de questions moi, que je vous pose, mais j'ai été. Cet engouement qu'il y a eu pour supprimer les animaux dans les cirques, alors c'est vrai que des tigres dans une cage, c'est choquant, hein, les lions aussi. Mais je me suis dit que là, c'était peut-être pas là la priorité. Donc ça pouvait poser question, en particulier aussi pour les parcs aquatiques. Donc au final, je pense qu'on a une prise de conscience qui est croissante et qui est c'est une bonne chose, le thème m'échappe, pardon, qui est tout à notre honneur, qui est à l'honneur de l'homme de se pencher maintenant sur la condition animale et d'essayer de faire moins souffrir les animaux. Là, j'ai repris deux ouvrages bien connus, Mathieu Ricard, il s'appelle Francis Olivier Gisbert avec tous les co-auteurs, mais il nous faut maintenant faire attention à certains anthropomorphismes et puis à rester quand même aussi le proche de la nature possible. Enfin, tout ça pose beaucoup de questions auxquelles il est difficile de répondre de façon simple. Voilà, je ne voulais pas y répondre de toute façon, juste vous proposer quelques éléments de réflexion. Je ne sais pas si vous avez des remarques sur ce dernier point.
J'ai juste une question. Je crois qu'il y a une ancienne élève de l'école Veto qui a fait sa thèse sur l'évaluation du bonheur des. Je ne sais plus si c'était les cétacés, mais de mammifères marins dans.
La Porte Saint-Père, justement.
Oui. Et du coup, est-ce qu'il peut y avoir des associations qui voudraient le bonheur des animaux, qui pourraient s'appuyer sur ces éléments-là plutôt que d'essayer de faire l'anthropomorphisme.
Oui, tu as raison, c'est par des recherches comme ça en éthologie qu'on va avancer. Alors j'ai entendu parler de cette thèse, je n'ai pas eu le temps de la regarder par contre, et je ne sais pas ce qu'elle en a conclu. Mais c'est vrai qu'on avait l'impression qu'un Port-Saint-Père, que je connais un petit peu, et où travaillent mes anciens élèves de Nantes, on n'avait pas l'impression de faire souffrir les animaux et il y a quand même effectivement de grosses poussées, de grosses accusations qui posent question. Mais il est très difficile d'y répondre puisque, bien sûr, il y a quelques critères objectifs comme ceux que je vous ai montrés sur les souris, sur les animaux d'expérience pour dire si un animal souffre au sens physique du terme, s'il ressent de la douleur. Mais sur les aspects psychiques, l'animal est-il heureux au sens où nous, on l'entend? Ce sera quelque chose de beaucoup plus difficile à apprécier. Mmh. Parce que ces dauphins et puis ces lions, ils sont en bonne santé, ils ne souffrent pas, ils n'ont pas mal, proprement dit. Mais sont-ils heureux? Le bonheur est-il une notion animale?
Je voulais aborder un sujet que vous n'avez pas abordé, c'est par exemple le déterrage des blaireaux. Les blaireaux sont considérés. Et la façon dont on déterre des blaireaux, c'est absolument terrible.
Oui, c'est un peu comme les chasses à courre.
Oui,
enfin, en quelque sorte.
Mais bon, aujourd'hui, c'est quasiment c'est demandé par les municipalités, je ne sais pas quel agrément ont les gens qui vont déterrer les blaireaux. Et la façon dont ça se fait, c'est extrêmement cruel, clairement. Hein. Entre les chiens qui vont dans le terrier et le crochet qui va les chercher, et ça se termine à coup de pelle, hein. C'est fou. Hein.
Ça vous posait la question, c'est vrai qu'on aurait pu parler aussi de toute la lutte contre les animaux nuisibles. J'ai vu ce matin que l'Angleterre venait d'interdire les pièges à colle pour les souris, pour les rats et les souris. Vous connaissez ces pièges? Malheureusement aussi, comme les souris, les rats dans notre garage, honnêtement, qui accepte ça? Et pour les détruire, on a soit des poisons, soit maintenant vous trouvez aussi des pièges à colle. C'est-à-dire l'animal, il n'y a pas de produits chimiques, c'est mieux pour l'environnement, mais il se colle à une colle tellement puissante qu'il s'épuise et qu'il meurt. Et ça vient d'être interdit en Angleterre parce que c'est jugé trop cruel. Mais toute la lutte contre l'invisible, effectivement, bah, c'est pour ça que le coup de fusil, c'est sans doute moins. Traiter les rats, mais un coup de fusil. Et donc on utilise des poisons qui font sûrement souffrir, des cols, ou alors le déterrage des blaireaux, tout ça est affreux. Mais sommes-nous prêts à accepter les nuisibles, entre guillemets, hein, aucune espèce n'est nuisible au sens écologique du terme, mais vis-à-vis de la vie de l'homme, effectivement, il y a un certain nombre d'espèces avec lesquelles on ne peut pas cohabiter.
Puisque vous parlez des Anglais, j'ai l'impression que ce peuple est composé de nombreux supporters, d'une reine et de pas mal de snobs, dont certains ont fondé une société de chasse aux renards au XVIIe siècle. Ils se réunissent une fois par an, ils mettent des habits rouges, ils soufflent dans les trompettes ou les trucs par le bon bout, enfin les clairons ou autre chose, et ils partent à cheval pour chasser le renard. Et depuis le XVIIe siècle, ils en ont tué un parce qu'un cheval avait marché dessus. Voilà des chasseurs qui me plaisent. Parce qu'on ne va pas chasser toujours que pour la viande, de moins en moins d'ailleurs, mais pour tout ce qui est autour, et ça relève autant de l'ethnologie que de...
Oui, les traditions et les coutumes.
Les traditions, c'est autre chose. Hein. Vous parliez de la tradition. Pour la tauromachie, la Catalogne l'a interdit depuis quelques années déjà.
Alors, en Catalogne, mais pas dans d'autres régions d'Espagne. Ouais. Et en France, c'est pas encore. Ouais. En France, il y a des limites quand même.
La réflexion est plus avancée en Espagne qu'en France. Hein. Qu'en France,
à la fois
c'est
plus
un
c'est...
petit territoire, mais c'est... Ouais.
Alors, je ne sais pas quelle est la situation en Espagne, parce que vous dites qu'elle est plus avancée. Oui, alors, la Catalogne l'a interdit, mais dans d'autres régions d'Espagne, oui, c'est encore bien plus.
Non, mais le débat, oui, mais le débat est très vif.
Ah bon,
ouais. Je ne connais pas du tout l'Espagne.
Alors qu'en France, c'est...
En France, c'est difficile, hein, et essentiellement pour des problèmes électoraux, hein, si on peut dire. Les municipalités ne veulent pas prendre des arrêtés.
L'argument de la tradition... En France, on avait bien des enfants qui travaillaient à 5 ans dans les mines.
Exactement.
Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça fait une charge en moins pour les parents.
Les traditions ne sont pas bonnes à garder. Celle sur la chasse aux petits oiseaux, là, c'est celle...
Le piégeage.
Pareil, et là, on a reculé, là aussi, parce que c'est une tradition. Voilà, il faut qu'on accepte.
Il y a quand même... Dans le centre de la France, il y a des chasses à courre qui existent depuis des millénaires et qui existent encore et qui augmentent encore avec la nuit des temps. Moi, j'ai assisté à deux chasses à courre, l'une au château de Chenonceau, où le cerf n'a pas été ni à mort, ni par les pieux, ni ceci. Ils l'ont donné au... Alors, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Mais le maître chien, enfin le chien qui commandait les 60 chiens, le plus gros chien. Et j'en ai fait une avec monsieur, la bande à M. Rothschild, et lui, on a chassé un cerf, et une fois qu'il était épuisé, la famille Rothschild a dit hop, on revient. Ils n'ont pas tué le cerf.
D'accord.
Deux, je ne dirais pas qu'il est familier.
Ouais, tant mieux s'il est reparti, mais il a quand même souffert pendant. Ah, non,
moi j'ai fait deux chasses à courre, une à Chenonceau et une à Blois, à côté de Blois, qui appartient à M. Rothschild, enfin, à la famille Rothschild.
Encore moi, je voudrais évoquer une activité bénévole que je pratique. Je suis à la Ligue de protection des oiseaux et je coordonne l'activité de rapatriement des animaux sauvages blessés vers le centre de soins de la faune sauvage à Oniris. Vous voyez, donc on y revient. Et beaucoup de gens téléphonent. Bon, en ce moment, tous les jours, il y a au moins 4 hérissons qui viennent des 4 coins du département. Il faut aller les chercher, il faut faire 100 km aller-retour. Quelques fois 200 km pour emmener ou une chauve-souris, ou un hérisson, ou un moineau, ou un merle, parce que l'animal est blessé, il souffre, et on ne dit pas aux gens, tuez-le. Et donc, oui, alors il n'y a pas le droit, puis les gens, ils n'ont pas envie, quoi. Donc on tente la chance et on emmène ces animaux au centre de soins, où le diagnostic vétérinaire est fait, Et suivant la qualité, disons le diagnostic, il y en a où l'euthanasie est faite pratiquement dans l'heure qui suit l'arrivée de l'animal. Hein. Et bon, ça un peu, on l'occulte, hein, c'est de la responsabilité des vétérinaires, mais où l'éthique des vétérinaires du centre de soins, c'est d'éviter la souffrance animale et de soigner les animaux pour qu'après ils puissent retrouver une vie sauvage normale. Donc si un oiseau ou un animal va être handicapé de telle manière qu'il va se faire boulotter et puis bah, il est... Donc là, il y a tout un travail qui est autour de la souffrance animale et avec Olivier Lambert, les gens du centre de soins. Et c'est... Alors ça pose des vrais soucis. Moi, plusieurs fois, j'ai amené des animaux et puis ils étaient morts quand je suis arrivé au centre de soins. Mais, et puis il y en a d'autres. Et puis alors il y en a d'autres où c'est des vrais sauvetages, hein, avec des prouesses chirurgicales et tout, et les oiseaux qui repartent en volant, et les hérissons qui repartent, même les chauves-souris, ils font des trucs formidables. Voilà. Oui, et le fond du fond, c'est le fait de trouver un animal blessé, d'y être, de ne pas y être insensible, d'y être très sensible, et de dire qu'est-ce que je fais. Donc après, on essaye avec du bénévolat de faire un réseau pour ramener et réduire cette souffrance, et avec aussi une chose par rapport à la vie naturelle. C'est qu'en ce moment, par exemple, quand il y a des petits, c'est de dire, faut laisser, les parents l'ont vu, il est au sol et tout, mais les parents vont venir le prendre et ça marche aussi. Hein. Voilà. Mais ça boucle aussi, ça a trait aussi à la souffrance animale des animaux sauvages. Où là, clairement, il y a aussi des... c'est cruel, hein. Le matin, c'est se lever pour ne pas se faire manger et manger. C'est l'un ou l'autre.
Exactement, oui, David. Et ce souci croissant de la souffrance animale, je pense que c'est quand même une évolution positive de notre société et qui accompagne d'autres choses en même temps. Et c'est quelque chose quand même au final de positif sur lequel on peut rester malgré toutes ces images, peut-être un petit et ces questions perturbantes.
Ah pardon, vous êtes organisé en association pour...
ben moi je suis de la LVO, Loire-Atlantique.
Mais le transport, vous parliez de hérisson.
La LVO aujourd'hui c'est la biodiversité, la globalité. Hein, donc que ce soit un hérisson, un chevreuil, une fouine, un renard, il y a tout. Hein.
Donc, si on
une petite belette, le jour, son petite belette orpheline, elle a été élevée au biberon et puis elle est repartie pour vivre sa vie de belette.
Tous ces animaux blessés sont justiciables de la LPO aussi.
Ah ben, et, si vous voulez, c'est le bénévolat, voilà, c'est-à-dire que les gens téléphonent en disant j'ai un hérisson blessé, qu'est-ce que j'en fais? Et donc, je ne dis pas gardez-le, mettez-lui une attelle et puis essayez de le soigner tout seul. Donc c'est on mobilise un réseau de bénévoles, on fait une partie du trajet où les gens peuvent faire une partie du trajet, et puis on ramène. Mais ils ont entre 10 et 20 animaux par jour qui arrivent au centre de soins.
Hein. Bien, je vous propose, puisque vous commencez à discuter entre vous, peut-être de couper cette discussion.
Non, mais c'était le témoignage de madame.
Juste faire une petite réflexion, mais est-ce que cette souffrance animale n'a pas servi à nous, les humains, à vivre plus longtemps?
C'est-à-dire que tous ces animaux nous sont utiles de façon à l'autre, c'est bien là la question. Jusqu'où peut-on? Effectivement, tout ça, heureusement, n'est pas gratuit. Nous avons trouvé un avantage, mais... C'est des questions qui nous emmènent très loin, sur la place de l'homme, sur la planète. Voilà.
Bien, bah écoutez, moi je voudrais remercier Martine Caméraire. Qui a couvert un champ très vaste. C'était vraiment très intéressant.
Et pas encore assez vaste,
de manière très synthétique. Non mais c'est vrai, donc on a une soirée, on a...
plein de questions, j'espère que ça vous a
et vous avez ouvert plein de questions aussi.
C'est
quelque chose en perpétuelle évolution. Et en même temps, ça pose des questions philosophiques, comme vous l'avez dit, éthiques et philosophiques. Et peut-être que du coup, nous, ça nous ça nous incite à avoir des prolongements à cette première approche pour peut-être approfondir certains des thèmes que vous avez abordés ce soir.
Ce sont des choses dont on va parler de plus en plus dans notre quotidien.
Oui, oui, voilà.
Bon, et qui engagent en particulier notre comportement de consommateur. En particulier, sommes-nous prêts à payer un peu plus? Alors là, je ne parle bien sûr pas des personnes dans le besoin et autres, mais à renoncer à certaines choses pour payer plus cher les éleveurs afin de préserver la santé humaine. Enfin, le bien-être, pardon.
Où sont les bornes aussi? Éviter les images toutes faites et les excès, peut-être.